DW. Info Matin.
7h en temps universel, 2h de plus dans nos studios ici à Bonn en Allemagne. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien branchés sur les ondes de la Deutsche Welle. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Wendy Bachy au micro en compagnie de Fréjus Kenom. Bonjour Fréjus.
Bonjour Wendy, bonjour à toutes et à tous. Retour sur la présidentielle en Mauritanie. Avec plus de 18% des suffrages, le militant anti-esclavagiste Biram Dahab est décidément un acteur influent de la vie politique mauritanienne, mais une figure contestée.
La situation sécuritaire reste préoccupante dans les hauts plateaux de Minembwe au sud Kivu. Le spectre d'une régionalisation du conflit plane sur cette partie de la RDC. On y revient plus en détail dans ce journal.
Les acteurs de l'éducation en Guinée ont le sourire. Une année scolaire réussie s'achève malgré les risques liés au mouvement de grève. On en parle dans notre série Éducation.
Alors, vous le savez certainement, la Coupe d'Afrique des Nations a débuté et ce matin, on vous proposera un sujet en direct d'Égypte avec Ali Farhat, notre envoyé spécial sur place. Mais nous commençons cette édition matinale avec un rapide tour d'horizon de l'actualité internationale. C'est avec vous, Fréjus Kenom.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier pour discuter des tensions dans le Golfe, dans la région du Golfe, pardon. Ces tensions se sont accentuées après la destruction jeudi dernier d'un drone américain par l'Iran et auparavant l'attaque contre deux navires pétroliers. Le Conseil a adopté une déclaration unanime approuvée par ses 15 membres dans laquelle il appelle toutes les parties à la plus grande retenue.
Les États-Unis ont tenté en vain d'introduire dans la déclaration un passage pointant la responsabilité d'un acteur étatique.
Oui, on sait que Washington accuse Téhéran de favoriser ces tensions qui inquiètent en Europe. Après la réunion au Conseil de sécurité, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont publié un communiqué conjoint lu par l'ambassadeur de l'Allemagne à l'ONU, Christoph Heusken.
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont gravement inquiets devant la montée des tensions dans le Golfe. Ces développements risquent de provoquer un conflit aux conséquences imprévisibles. Nous appelons au dialogue et au strict respect des règles internationales. Nous réitérons notre condamnation des attaques contre deux tankers dans le Golfe d'Oman et toute action portant atteinte à la sécurité et la paix dans la région. Les attaques contre des pétroliers violent le droit international, attirent des risques environnementaux et sont potentiellement dangereuses pour une région où la situation est déjà volatile.
Les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions dures contre l'Iran visant notamment le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei et plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution. Réaction de l'Iran qui qualifie ces nouvelles sanctions de stériles, parlant ce matin d'une décision qui ferme de manière permanente la voie de la diplomatie entre Washington et Téhéran. Après 5 ans de suspension, suite à l'annexion de la Crimée, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a redonné à la Russie son droit de vote aux grandes dames de l'Ukraine. L'institution a adopté une résolution en ce sens au terme d'un débat houleux. La Russie avait menacé de se retirer du Conseil de l'Europe, ce qui aurait eu pour conséquence de priver ses citoyens de tout recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le bras juridique du Conseil.
Juste, la protestation ne faiblit pas en Géorgie.
Oui, malgré des concessions faites par le gouvernement en vue d'empêcher la mobilisation, des milliers de personnes étaient encore descendues hier dans les rues de Tbilissi. Plus tôt dans la journée, le parti au pouvoir a annoncé une réforme du code électoral qui s'appliquerait déjà aux élections législatives prévues l'année prochaine. Mais l'opposition maintient son appel à la démission du ministre de l'Intérieur et la remise en liberté des manifestants arrêtés la semaine dernière. Le but de la contestation est aussi de dénoncer l'influence jugée croissante de la Russie dans la politique géorgienne.
Le Mexique envoie des soldats à sa frontière avec les États-Unis.
Une manœuvre qui n'est pas hostile aux voisins américains. Au contraire, il s'agit de renforcer le dispositif anti-migratoire pour empêcher les passages sur le territoire des États-Unis. Il y a quelques semaines, le Mexique et les États-Unis se sont mis d'accord après une période de tension. Ce sont 15 000 soldats mexicains qui sont déployés à la frontière entre les deux pays. Sur exigence de Washington, le Mexique a aussi accepté d'envoyer 6 000 soldats de la garde nationale à la frontière sud avec le Guatemala. Et puis en Allemagne, 3 heures de réunion sur le secteur automobile sans décision concrète. C'était hier dans les bureaux de la chancelière Angela Merkel à Berlin. De sources proches de la réunion, les participants se seraient néanmoins entendus sur le principe de la construction de nouvelles stations de recharge pour voitures électriques. L'idée à terme est d'attirer plus de clients vers ces voitures d'avenir. L'Allemagne souhaite que dans les 10 prochaines années, 10,5 millions de voitures électriques soient en circulation.
Merci Fréjus Quenhomme, merci à vous de nous écouter. Il est 7h50 en universel, vous êtes toujours branchés sur les ondes de la DW.
DW.
En Mauritanie, si Mohamed Ould Hazouani a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, le scrutin a aussi été marqué par le score inattendu du militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeille. Il est arrivé deuxième. Plus de précisions avec Eric Topona ce matin.
Lors de la présidentielle de 2014, Biram Ould Abeille n'avait obtenu que 8,67% des suffrages. Cette fois-ci, il aurait recueilli un peu plus de 18% des voix, loin devant des figures de la vie politique mauritanienne comme l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar ou le journaliste Baba Hamidou Kane Lo Gourmou Abdoul, politologue mauritanien.
C'est quelqu'un qui apparaît comme ayant un discours extrêmement tranché et qui symbolise un peu les couches les plus frustrés. Donc il y a une excellente communication politique qui lui a permis très vite de se positionner, d'autant plus qu'il est parti beaucoup plus vite que tout le monde, parce que lui il est en campagne depuis un an, contrairement au reste de l'opposition. D'autre part, c'est celui par rapport auquel le pouvoir avait le plus de crainte, ou je crois le pouvoir a fait le plus attention à ne pas trop frustrer ses électeurs.
Conséquence, il va falloir désormais compter avec Biram Ould Abeid, selon Eli Mustapha, analyste politique mauritanien.
Il a montré que par ses actes, qu'il y avait beaucoup de choses à changer et qu'il a posé sur le tapis. Et il a été aussi une personne assez virulente à l'égard du système en place, qui montre aussi qu'il a une certaine stature, une certaine place dans le paysage politique mauritanien.
Un enthousiasme que ne partage pas Mohamed Majoub de l'ONG Fort Mauritania, qui critique l'orientation idéologique du militant anti-esclavagiste.
Biram, c'est un vote identitaire. Il n'a pas beaucoup de moyens, mais il a un discours qui touche une certaine frange de la Mauritanie qui a bien fait son effet. Son discours, c'est pas contre tous les discours qu'il fait au niveau de la droite en Europe ou ailleurs.
Arrêté en août 2018 à Nouakchott, Biram Ould Abeid s'est fait élire député depuis sa cellule en septembre. Il a été libéré en décembre de la même année.
Nous restons en Mauritanie où les membres de l'opposition avaient prévu une manifestation hier, lundi. Finalement, cette dernière n'a pas eu lieu et les opposants qui continuent de rejeter les résultats de la présidentielle rendus publics par la CENI. Ces résultats qui ont proclamé président le candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh El Hazouani.
L'opposition mauritanienne a reporté donc sa manifestation à jeudi prochain. Au Sénégal voisin, Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, a annoncé sa démission hier de la direction de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis septembre 2017. Cette annonce est faite 3 semaines après qu'il a été épinglé dans un reportage de la chaîne britannique BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal.
Au Mali, la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, a renforcé depuis hier sa présence dans le centre du pays. La MINUSMA a inauguré un nouveau secteur centre afin de mieux protéger les civils. Rappelons ici que cette région connaît depuis plusieurs mois une escalade d'attaques djihadistes et des violences intercommunautaires.
En bref, encore au Burkina Faso, plusieurs centaines de médecins, infirmiers et agents de santé ont manifesté à Ouagadougou, la capitale, hier pour dénoncer le déclin du système de santé et exiger de meilleures conditions de vie et de travail.
Human Rights Watch publie un communiqué dans lequel l'organisation internationale dénonce et condamne les actes de torture et d'occupation des écoles par les séparatistes. Ça se passe au Cameroun. Cette communication fait suite à une vidéo filmée au courant du mois de mai dernier qui montre des séparatistes armés torturer un homme dans une école abandonnée dans la région nord-ouest du pays.
Et vous parlez du Cameroun, on rappelle que 7 militaires soupçonnés d'avoir exécuté sommairement l'année dernière 2 femmes et leurs 2 enfants dans le nord du pays seront jugés devant un tribunal militaire pour assassinat. L'affaire avait suscité un grand émoi quand une vidéo avait été diffusée montrant des militaires camerounais assassiner ces femmes et leurs enfants. Le pouvoir avait d'abord démenti l'information avant d'admettre la véracité des faits.
Vous écoutez la DW.
Selon des sources humanitaires, 140 000 personnes ont dû fuir leurs habitations depuis le début du mois de mai dans les hauts plateaux de Minembwe au sud Kivu en République démocratique du Congo. Dans cette région, des combats opposent de manière récurrente des groupes armés locaux aux forces armées congolaises.
Et à ceci s'ajoutent des suspicions sur la présence de groupes armés affiliés au Rwanda et au Burundi, ce qui fait craindre une régionalisation du conflit à Jason Stern, fondateur du groupe de recherche sur le Congo qui a récemment publié un rapport portant sur des mouvements suspects de rebelles rwandais dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Vous l'avez interrogé, Wendy.
Depuis l'année passée, une guerre quelque part par procuration dans le Sud Kivu entre les rebelles burundais qui s'affrontent avec l'armée burundaise d'un côté, mais aussi avec l'armée congolaise. Ça, c'est dans le plateau du territoire de Fizi ou Vira. Aussi, des rebelles rwandais dont on parle, dont il faut encore confirmer leur présence, qui aussi ont fait dans le passé cause commune avec l'armée congolaise. Donc là, il y a quelque part trois parties, le Rwanda, le Congo et le Burundi, qui tous se coalisent avec les ennemis de l'autre côté, avec dans un triangle très complexe entre les trois pays.
Donc, qu'est-ce qu'on peut craindre de cette régionalisation si vraiment elle venait à se concrétiser?
Bon, difficile de savoir. Je ne pense pas qu'on peut parler d'une guerre régionale. Pour l'instant, ça se limite à des mouvements transfrontalières entre ces trois pays. Mais il y a lieu de se poser la question s'il n'y a pas un embrasement plus général dans la région qui est en cours. Je parle notamment des tensions depuis l'année passée qui s'aggravent entre le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi de l'autre côté, ces mouvements des rebelles à l'est du Congo. Je pense que tout ça pourrait être lié et il n'est pas pour rien, je pense, que le président Félix Tshisekedi s'est déplacé depuis qu'il est au pouvoir dans ces trois pays. Donc il a rencontré le président Nkurunziza, Kagame et Museveni. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé, le contenu de ces entretiens. Et on n'a pas encore eu une stratégie ou une vision de la part de la présidence congolaise par rapport à ce qu'ils veulent faire sur le terrain et ce que les pays voisins ont promis dans ces entretiens. Donc pour moi, ce qui inquiète pour l'instant, c'est que de tous les côtés, il y a un manque d'informations, un manque de transparence, mais évidemment une situation sur le terrain qui tend à s'aggraver.
Nous restons en RDC où trois élèves ont été tués hier à Beni dans le Nord Kivu lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF en provenance de l'Ouganda. Les faits se sont déroulés sur l'axe Mbau-Kamango.
Et nous vous en parlions lors de nos précédentes éditions. La situation humanitaire reste préoccupante dans la province de l'Ituri en RDC où des organisations de la société civile ont dressé un bilan de 240 morts il y a une dizaine de jours suite aux violences intercommunautaires entre Emma et Lendu à Djougou.
Dans ce contexte que le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, a lancé une campagne de récolte de fonds pour les déplacés de Djougou, Mahagi et Irumu. Notons que selon les comités de déplacés, environ 150 000 personnes ont dû fuir les affrontements et ces personnes manquent aujourd'hui de nourriture et de médicaments.
Et nous bouclerons ce chapitre RDC avec l'annonce hier du procès en appel concernant le viol d'une mineure de 13 ans. Pour rappel, le 17 mai dernier, une jeune fille a été violée par 7 de ses camarades de classe. À l'issue d'un premier procès le 17 juin, le tribunal pour enfants à Kinshasa a condamné à 5 ans de prison un de ces 7 garçons.
À noter, Fréjus, que le procès en appel a été renvoyé au 27 juin. Si vous souhaitez réagir à l'un des thèmes développés dans ce journal ou toute autre information qui pourrait nous intéresser et bien sûr vous intéresser, faites un tour sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Fréjus, ce matin, nous poursuivons notre série dédiée au secteur de l'enseignement sur le continent.
Oui, en Guinée, à quelques semaines des examens qui se dérouleront en juillet, les élèves et professeurs s'efforcent de rattraper le temps perdu à cause des grèves à répétition qui ont une nouvelle fois perturbé l'année scolaire. C'est un sujet de Bangali Kondé, notre correspondant à Conakry.
Nous sommes au lycée Ahmed Sékou Touré, l'un des plus grands lycées de la commune de Matoto. Ici, les candidats passent les derniers tests avant le baccalauréat 2019. Ils discutent en sortant de la première épreuve.
s'est bien passé, j'ai trouvé Brito Sarah.
Maintenant, nous faisons le bac blanc. Vraiment, les sujets se déroulent dans les bonnes conditions. Les cours de révision aussi se déroulent dans les meilleures conditions.
C'est ma première fois de faire le bac. Les principales difficultés qu'on a racontées cette année, l'année a été perturbante. On a eu des crises, on a fait des grèves. Heureusement pour nous, on a pu poursuivre l'année jusqu'à ce niveau et on compte aussi bien terminer dans la santé.
Dans les établissements publics, les programmes d'enseignement ont été perturbés suite aux grèves déclenchées par le syndicat de l'éducation. Selon les chargés de cours, des dispositions ont été prises pour rattraper les cours perdus en doublant les heures de travail, comme l'explique Mori Kourouma, professeur de géographie.
Dans le calendrier du département, je dois donner ce cours-là une seule fois par semaine. Après cette perturbation, à la reprise, il était question maintenant de trouver deux autres heures, donc ça me faisait 4 heures de cours par semaine. Donc ce qui m'a permis de boucler mon programme. Presque tous les programmes sont à 100%. En tout cas à mon niveau.
En plus des cours de rattrapage, des séances de révision ont été mises en place dans plusieurs établissements de Conakry et de l'intérieur du pays. Ces cours ont été financés par des parents d'élèves. Mohamed Tunkara a un fils qui prépare le brevet d'études du premier cycle.
On a beaucoup investi pour la révision des enfants. Et étant un parent d'élève, voir les enfants comme ça, et sans niveau, vous voyez ce que ça fait. Et ça ne laisse vraiment aucun parent d'élève satisfait ou vraiment aucun parent d'élève n'aimerait voir ses enfants comme ça.
L'éducation nationale affirme que toutes les dispositions sont prises pour des examens nationaux réussis. Pour la première fois, l'usage des téléphones portables et des réseaux sociaux pourrait être interdit durant les épreuves. Bangali Kondé à Conakry pour la Deutsche Welle.
Notre série sur l'enseignement se poursuivra tout au long de la semaine et sachez que vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre site internet. En bref, au Soudan, les chefs de la contestation ont assuré que les initiatives de l'Éthiopie et de l'Union africaine pour définir les grandes lignes de la transition étaient donc identiques. Cette déclaration vient contredire le conseil militaire au pouvoir qui a réclamé la veille donc, de cette déclaration un plan commun.
En bref, encore, c'est aujourd'hui qu'aura lieu en Éthiopie l'enterrement du chef d'État major des forces armées, le général Sir Mekonnen. Il a été tué samedi lors d'une attaque dans le nord-est du pays.
En bref, au Maroc, une manifestation est prévue cet après-midi pour la modification sur la loi sur l'avortement.
Et toujours en bref, c'est hier qu'a débuté en Chine le FORAC, le Forum sur la coopération Afrique-Chine. Pendant 2 jours, les différents participants vont évaluer les acquis du FORAC 2018, c'est-à-dire l'édition précédente.
DW, le sport.
On vous le disait en début de journal, Coupe d'Afrique des Nations oblige. Nous avons notre correspondant sur place et donc en Égypte. La Coupe bat son plein, fortunes diverses pour les grandes nations hier. Si la Côte d'Ivoire et le Mali se sont imposés, la Tunisie a dû partager les points. Ali Farad fait le point pour nous de la soirée d'hier.
Une belle entrée en matière, voilà ce qu'a réalisé le Mali hier soir. Opposé à la Mauritanie au stade de Suez, les Aigles ont ouvert la marque à la 37e minute de jeu d'une superbe frappe signée Abdoulaye Diaby. Juste avant la mi-temps, l'attaquant du FC Porto, Moussa Marega, a porté le score à 2-0 sur pénalty. Pour sa première participation à une CAN, la Mauritanie allait continuer son apprentissage à la dure en seconde mi-temps. D'une nouvelle frappe de loin, Adama Traoré a donné un avantage de 3 buts au Mali. Petit moment historique à la 72e minute, puisqu'en inscrivant un pénalty, le milieu de terrain Mokhtar Sidi El Hassen El Id a tout simplement marqué le premier but des Moura Bitoun à la CAN. Moment de joie de courte durée cependant, puisque 2 minutes plus tard, l'autre Adama Traoré, qui avait remplacé Adama Traoré justement, allait inscrire un dernier but dans cette rencontre. Victoire 4-1 des Aigles du Mali, qui prennent seuls la tête du groupe E devant la Tunisie et l'Angola, qui se sont neutralisés quelques heures plus tôt. Score final 1-0. Prochaine rencontre dans ce groupe E, le choc entre la Tunisie et le Mali qui aura lieu le vendredi 28 juin à 14h30 en temps universel. Angola-Mauritanie aura lieu le lendemain à la même heure également au stade de Suez. Pour rappel, hier au stade Al-Salam du Caire, la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à l'Afrique du Sud grâce à un but de Jonathan Kodja. Les éléphants qui affronteront le Maroc lors de la prochaine journée, une affiche qui aura lieu vendredi à partir de 17h en temps universel.
Ali Farhat, notre envoyé spécial au Caire en Égypte. Et sachez que concernant les affiches aujourd'hui, il y a un certain Cameroun-Guinée-Bissau et un autre match qui oppose le Ghana au Bénin.
Ghana-Bénin, on se demande
qui va
gagner.
Ça me dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose. Merci Fréjus Kenom. La prochaine chronique sportive est à retrouver dans notre journal de 17h en temps universel.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
Au Burundi, le paiement des impôts et des taxes se généralise au sein de la jeunesse qui représente plus de 60% de la population.
Celle-ci s'acquitte de son devoir de citoyen et déplore que les grandes entreprises, pour leur part, fassent de la fraude fiscale. Les jeunes sont en effet les premières victimes de cette injustice fiscale. Reportage de Antiditest Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Nous voulons qu'il y ait une justice dans la collecte et dans la redistribution des recettes. Il y a toujours des exonérations offertes par le gouvernement du Burundi. Nous ne sommes pas satisfaits à ce niveau-là parce que le citoyen ordinaire, lui, il paie toujours ses impôts, mais il y a toujours les grandes personnalités et les entreprises qui échappent aux impôts, soit par des manœuvres légales ou soit par des exonérations offertes par l'État. Et à partir de ce moment-là, ce sont des milliards de francs qui se perdent comme ça.
Ce sont les inquiétudes d'Apollinaire Nechilimbere, président de l'initiative citoyenne pour l'environnement et le développement durable. Il décrit l'injustice fiscale dans le paiement d'impôts et taxes. Les petits contribuables s'acquittent de ce devoir citoyen quand les grandes entreprises y échappent. Inquiétude que partage Méline Akizimana, jeune commerçante et activiste sur la justice fiscale. Elle dénonce trop d'exonérations au profit aux grands contribuables qui noient le pays dans la misère.
Selon moi, c'est une situation catastrophique parce que c'est le bas peuple qui continue à souffrir. Ces entreprises, ces grandes personnalités devraient payer les impôts. Il n'y a pas d'exonération qui viendra pour favoriser que le pays ne puisse pas continuer à se développer comme il fallait. Parce que ces exonérations, si on essaie d'examiner, ce sont des grandes sommes d'argent qui devraient contribuer au développement du pays. Et si c'est le bas peuple qui continue à payer, Et elle continue à souffrir et ne va pas se développer. C'est le pays qui souffre.
Les jeunes Burundais prennent de plus en plus conscience de la nécessité du paiement d'impôts et taxes. Mais ils s'interrogent sur les inégalités et l'injustice fiscale entretenue par les grandes entreprises. Kelly Cynthia Kaze est une étudiante à la faculté d'économie. Elle s'indigne de la fraude fiscale.
Ces grands commerçants, ces diplomates, ces grandes entreprises font des fraudes fiscales. Ils ne prennent pas conscience que le paiement de ces impôts, le paiement de ces taxes parviennent à développer le pays, mais eux aussi, parce qu'ils ont des familles, ils ont des enfants qui veulent être instruits, ils ont des enfants qui veulent être soignés, ou alors on trouvera ces infrastructures s'ils ne paient pas ces impôts et taxes. Je me dis que chaque citoyen doit être conscient que le paiement des impôts et taxes, c'est la base de tout développement. Parce qu'on ne sera pas toujours développé par les aides, on ne sera pas toujours développé par le financement de l'extérieur. Mais si on fait notre premier pas, je me dis qu'on pourra se développer facilement.
Les inégalités dans le paiement d'impôts et taxes et la fraude fiscale ont d'importantes conséquences sur la vie socio-économique des citoyens. Dans son analyse, l'économiste Faustin Dikoumana, président de l'organisation locale Parole pour l'éveil des consciences et l'évolution des mentalités, déplore l'impact de la situation sur le plan nutritionnel.
Un pays qui arrive à une malnutrition chronique de 40%, c'est l'alerte à l'OMS. Mais chez nous, tendons vers 60, avez-vous déjà entendu l'alerte des autorités sur cette situation? 70% des enfants vivent dans les ménages les plus pauvres. Donc, ils vivent le problème de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Au niveau de l'anémie chez les enfants de moins de 5, de 0 à 5 à 9, 45%. La norme, c'est de 5%. Nous avons un indice de la faim le plus élevé en Afrique. L'insécurité alimentaire au niveau global qui touche environ 70% de la population. C'est-à-dire que 7 Burundais sur 10 ont toujours un problème de satisfaction au niveau alimentaire.
Au Burundi, comme ailleurs dans certains autres pays africains, les grandes entreprises pointées du doigt œuvrent pour la plupart dans le secteur minier. Malgré le sous-sol riche en ressources naturelles, le continent noir reste sous-développé et économiquement dépendant. Les raisons sont simples selon Yang Mamadi, économiste minier.
Nos pays pauvres, ils ont des ressources naturelles, mais ils n'ont pas les moyens d'exploiter. Ils appellent aux entreprises multinationales qui viennent pour exploiter. Et après cela, c'est les États de ces entreprises étrangères qui vont imposer, influencer le pays autres pour l'exploitation, ce qui a un impact. Donc, les pays, ils ont des relations bilatérales qui vont influencer sur les négociations. Après l'exploitation, ils vont inventer les charges qu'ils n'ont pas dépensées. Et il y a une petite part qui revient à l'État. La part qui revient à l'État aussi n'est pas destinée pour les investissements. La corruption est engrenée. Donc, c'est toujours l'influence des multinationales sur les pays hôtes en leur proposant des investissements, des dons qui les manipulent et aussi ils les accordent beaucoup d'exonération.
Dans ce cadre, selon les données de l'Initiative citoyenne pour l'environnement et le développement durable, l'évasion fiscale se comptait entre 300 et 520 milliards de dollars entre 1970 et 2008 et les sorties par la corruption des agents publics étaient estimées entre 15 et 24 milliards de dollars pour la même période. 10 ans plus tard, la situation aurait empiré, poursuit la même organisation. Antelites de Niragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Il est 7h25 en temps universel. Vous écoutez toujours les ondes de la radio internationale allemande. On retrouve à présent notre chronique. À vous la parole.
À vous la parole.
Les Tanzaniennes sont en colère. Le gouvernement a décidé de réintroduire la TVA sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Une décision lourde de conséquences pour la plupart des femmes et des filles, puisque ces produits sont déjà trop chers pour la plupart des utilisatrices. Mireille Drone a rassemblé pour nous vos commentaires ce matin.
Plusieurs abonnés sur nos réseaux sociaux s'indignent d'une telle mesure, comme Isaac de Lubumbashi en RDC, qui affirme sur Facebook que cette décision ne respecte pas la dignité féminine. Pour Franck Delomé, c'est incroyable que de telles décisions soient prises. À croire que nous ne sommes tous qu'une bande d'arriérés, s'exclame-t-il sur WhatsApp. Hiero de Dakar et Jean-Baptiste du Cameroun invitent tous les deux les autorités tanzaniennes à bien réfléchir et à revenir sur ces décisions. Il faut dire que même des députés du parti du président John Magufuli ont appelé les autorités à maintenir l'exonération qui prévalait sur ces produits, voire à assurer une distribution gratuite à certaines catégories sociales, parce que le taux élevé d'échec scolaire chez les filles des zones rurales est largement dû à leur absence pendant leurs règles. Le gouvernement doit veiller à l'intérêt général du pays et tout particulièrement à la scolarisation de la jeune fille, estime Maizama de Niamey au Niger. Nikès de Lomé au Togo craint lui que cette décision plonge davantage les populations dans la précarité et invite les dirigeants africains à tenir compte du niveau de vie des pauvres citoyens. Le prix de ces protections hygiéniques devrait être diminué ou elles devraient même être distribuées gratuitement, estime Ndeye Kouj de Dakar, appelant les responsables à un peu de compassion, car, souligne-t-elle, c'est une chose qui arrive indépendamment de notre volonté. On est victime de la nature. Au Sénégal, les prix sont plutôt abordables, mais certaines femmes ont des cycles longs et doivent donc utiliser davantage de protection. Emmanuela de RDC nous rapporte que dans son pays, on ne parle presque pas de ce sujet. Or, les protections coûtent très cher. Elle a vu de ses propres yeux des filles qui utilisent la boue, pas du tout hygiénique bien sûr. Alors en tant que jeune fille militante, elle se bat pour que ces protections hygiéniques n'aient plus de prix. Tous les pays africains devraient se rendre compte que les règles doivent être dépénalisées et briser le silence, demande Emmanuela.
« 7h27 en temps universel, l'heure est venue pour nous de refermer cette édition. Avant de se quitter, Régis, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 25 juin ?»
L'Éthiopie d'abord, le général tenu responsable des assassinats de samedi a été abattu hier. Enterrement aujourd'hui de son frère d'armes, chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, Sir Mekonnen. Report de la manifestation de l'opposition en Mauritanie pour contester les résultats de la présidentielle. En RDC, la sortie de la CENCO, l'épiscopat qui exhorte les députés pro-Kabila à éviter de voter des lois taillées sur mesure. 10e anniversaire aujourd'hui de la mort de la star américaine Michael Jackson. Il était décédé le 25 juin 2009. La Coupe du monde féminine en France, 8e de finale avec un match Italie-Chine en vue aujourd'hui. Et puis en Égypte, Coupe d'Afrique des Nations 2019, il y a deux matchs Cameroun-Guinée-Bissau à 19h et puis Bénin-Ghana, je dis bien Bénin-Ghana à 22h, à ne pas rater.
Que le meilleur gagne. On vous souhaite à tous une excellente journée. Rendez-vous ce soir pour une prochaine édition d'Information et de Magazine. Tchuss.
Tchuss.